Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons revenir sur un individu au sommet de sa gloire et dont le CV est impressionnant. Il a fait une longue carrière où il fut successivement licencieur, homme d'affaires escroc, truqueur de matchs de foot, ministre et locataire de la prison de la santé. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Bernard Tapie. L'affaire Tapie est une histoire à pleurer pour le contribuable. Elle illustre à merveille les rouages mafieux de la démocratie dite des Lumières, que l'on connaît bien et dont la justice en est le pivot. Bien, tout commence avec l'envie de faire fortune. Bernard Tapie est un homme d'affaires, il achète des entreprises et les revend en pièces détachées, ce qui lui permet de dégager de forts bénéfices. En 1990, il fait un coup d'éclat en achetant l'entreprise Adidas pour 1,4 milliard de francs, entreprise intégralement financée par les banques et principalement le Crédit Lyonnais, qui, vous le savez bien, était une entreprise publique à l'époque. Sa société Adidas s'effondre malgré tout 2 ans après son achat. Les banquiers allemands, qui assuraient son fonds de roulement, menacent de lui couper les vivres, à moins de changer le management et d'effectuer une grosse augmentation de capital. Au même moment, on apprend que les premiers remboursements du prêt du Crédit Lyonnais sont exigibles, et malheureusement, l'homme d'affaires n'a pas de quoi les rembourser, donc c'est le début de la fin. Seulement Tapie ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et voyant le vent tourner dans son business, eh bien il brigue un poste de ministre, et non des moindres, celui de ministre, quelques années plus tard sous la présidence de François Mitterrand. Il occupe la fonction de ministre de la ville en 92, et après un passage par la case justice, eh bien la gauche mitterrandienne ne peut s'empêcher de voir en lui le sauveur de la débâcle annoncée aux législatives de 93. Les portes du pouvoir lui sont ouvertes, mais nous y reviendrons. Concernant l'entreprise Adidas, eh bien Bernard Tapie n'a nul autre choix que de vendre. Imaginez le scandale si l'on eût appris qu'une banque nationalisée ait sauvé la petite entreprise d'un de ses ministres. Donc après quelques acrobaties, eh bien Tapie se sort du pétrin médiatique qu'il a tondé au tournant. Il confie à une filiale du Crédit Lyonnais un mandat pour vendre la société à la hauteur de 1,7 milliard. L'affaire est conclue, mais la banque a menti. Elle a caché qu'elle faisait partie, par le biais de sociétés offshore, du consortium des acheteurs. Et qui plus est, elle signe une option d'achat avec Robert-Louis Dreyfus pour 4,4 milliards et qui se charge seul du redressement de l'équipementier sportif. En novembre 1995, ce même Louis Dreyfus introduit le groupe en bourse sur une valorisation de 11 milliards. La banque a sauvé Adidas de la faillite in extremis. Dès que l'entreprise retrouve sa santé, Bernard Tapie décide alors d'attaquer le Crédit Lyonnais en justice, au motif que celui-ci l'aurait spolié lors de la transaction. Il accuse d'avoir participé à son rachat, tout en le conseillant pour la vente, et donc que le prix réel de la vente ne correspond pas au prix souhaité par le vendeur. Il réclame une partie de la plus-value des 4,4 milliards de francs. Conclusion, les loups restent des loups. La vision de la banque est quelque peu différente. Elle aurait obéi aux injonctions de l'Élysée en finançant un allié politique dont le groupe était en faillite, et ce, à la limite du droit. Selon le Canard enchaîné d'aujourd'hui, Tapie n'aurait pas été arnaqué puisque par écrit, le 9 octobre 1992, il avait présenté à la société britannique Pentland une offre de vente de 1,45 milliard, offre refusée par ailleurs. Et donc finalement, c'est le Crédit Lyonnais qui lui a finalement racheté ses parts dans Adidas sous la pression du gouvernement bérégovois à hauteur de 1,57 milliard, soit 120 millions de plus. Donc le Crédit Lyonnais a donc fait un cadeau à un escroc avec l'approbation du gouvernement. Bernard Tapie a été ensuite placé en liquidation judiciaire avec ses sociétés en 1995 pour non-paiement de ses dettes à l'État, qui a dû récupérer les actifs pourris de la banque. La justice prend alors le dossier en main. Après l'échec d'une médiation entre Tapie et l'État en 2004, la Cour d'appel condamne le consortium de réalisation. Je rappelle que le consortium de réalisation est la structure chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais après sa faillite en 1993. Donc ce consortium de réalisation, eh bien, il est condamné à verser 145 millions d'euros de dommages et intérêts à l'homme d'affaires. Mais la Cour de cassation, elle annule cette condamnation en 2006. La justice se positionne de plus en plus en faveur de l'État contre Tapie, qui risque de rester sur la baille. Et là, coup de baguette magique, Sarkozy accède à la présidence de la République en 2007. C'est le début de la berlusconisation de la justice. Sarkozy suspend le cours de la justice de cette obscure affaire et confie soigneusement le règlement de ce contentieux à un tribunal arbitral. Il faut savoir que le recours à un tribunal arbitral nécessite l'accord de l'établissement public de financement et de réalisation, qui se trouve être une structure publique de contrôle du consortium de réalisation. Cet établissement est géré par 5 membres, 3 fonctionnaires du ministère des Finances et 2 élus, les deux élus étant un élu UMP et un élu Nouveau Centre. Les trois fonctionnaires reçoivent des instructions de Sarkozy. Résultat des courses, 3-2, c'est voté. Le pouvoir appartient désormais au tribunal arbitral. Mais que se cache-t-il derrière ce nom sibyllin ? Le tribunal arbitral n'est rien de plus qu'une justice privée. Trois membres le président, l'ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, l'avocat Jean-Denis Bredin et l'ancien magistrat Pierre Estoupe. Deux d'entre eux sont déjà connus du grand public pour leur verdict dans l'affaire Elf. Petite précision pour nos auditeurs, chacun de ces juges touche une rémunération d'1 million d'euros, payée par le consortium de réalisation bien sûr, c'est-à-dire le contribuable, pour leurs bons et loyaux services dans cette affaire. Mais revenons à nos moutons. Donc le tribunal arbitral prend alors le contre-pied de l'arrêt de la Cour de cassation. Il rend un verdict secret et indiscutable. C'est l'envers du décor démocratique. Comment est-il possible que le président, que l'on pourrait vouloir être le garant de l'État et donc de la protection de l'argent du contribuable, soit capable de dessaisir la justice ordinaire pour avoir recours à un arbitrage privé ? Pourquoi le gouvernement feint de se préoccuper du déficit de l'État alors qu'il aide ses amis à se relancer dans le business ? Plus simplement, pourquoi un mafieux est-il un mafieux ? Le verdict de cette nouvelle forme de justice est sans appel. Bernard Tapie gagne le procès, on est étonné, et le contribuable, c'est-à-dire nous, doit lui verser la coquette somme de 220 millions d'euros, dont 45 millions au titre de préjudice moral, donc non imposable en plus. La règle du renvoi d'ascenseur fonctionne à merveille. Mais la question qui reste sur toutes les lèvres, quel cadeau devra faire Tapie à Sarkozy ? Un soutien aux prochaines élections ? Nul ne peut le dire pour l'instant. Cette affaire est emblématique, elle cristallise en elle toute la nécrose du capitalisme démocratique, qu'on se le tienne pour dit. Il ne sert à rien de se leurrer sur le fonctionnement de la justice, seuls les riches en sortent grandis, la justice n'est pas plus indépendante qu'elle n'est juste, elle suit une logique, celle du capital contre le travail, celle des riches contre les pauvres, celle des patrons contre les travailleurs, une vieille ancienne, démodée paraît-il. La démocratie bourgeoise assure l'inégalité comme principe dans les faits. Les pauvres ne cessent de donner leur argent aux riches sous les yeux approbateurs de l'État à leur service. Des menteurs, des voleurs, les deux en même temps le plus souvent, voici le visage de notre système politique. Mais alors, comment remettre les pendules à l'heure ? Comment discuter une décision de justice indiscutable ? Eh bien peut-être pour commencer en changeant le fonctionnement actuel de la justice. Pourquoi les juges ne sont-ils pas élus ? C'est une question essentielle qui remet en cause notre forme de démocratie. La justice doit être un pilier de la démocratie. J'entends par démocratie le pouvoir du peuple et non notre actuelle République bananière. Bernard Debré, ancien ministre et actuellement député UMP de Paris, confiait hier au journal Le Monde qu'élire un juge reviendrait évidemment à le soumettre aux aléas politiciens. Il y aurait des juges de droite et des juges de gauche. La justice ne serait plus, selon lui, impartiale. Ce raisonnement vaut son pesant d'or. La justice ne serait plus impartiale par rapport à qui ? Comment une justice peut-elle être impartiale si les juges sont cooptés et non élus et si l'exécutif peut tout à loisir défaire le verdict de la justice ordinaire ? Il faudrait que Bernard Debré nous l'explique. Plus loin, ce même individu se demande si, et je le cite, « si les jugements seraient plus justes, en tout état de cause, ils seraient soumis au courant de l'actualité, au mouvement de l'humeur populaire. Combien d'hommes et de femmes ont été tués, assassinés pendant la Révolution par le peuple, voulant assouvir ses pulsions ?» Fin de la citation. Bernard Debré défend-il la monarchie ? Non. Mais entend-il que le peuple ne doit pas détenir le pouvoir ? Oui, assurément. Le peuple serait sanguinaire, donc inapte à rendre justice. C'est l'oligarchie qu'il propose, et non la démocratie. L'impartialité des juges est une illusion, une hypocrisie, qui cache l'exercice du droit par des juges de la bourgeoisie au profit des plus riches. Mais l'élection des juges par le peuple reviendrait effectivement un jugement moins clément pour les Bernard Tapie, les Chirac et consorts. Alors je vous le dis aujourd'hui, et si on essayait ?